Pendant que les autres radios parlent de Montréal, jouent de la musique, nous autres, on parle de sport. Avec Greg Langteau, 91.9.
BBM Sport.
Le Big Frio. Tellement content de te retrouver. Comment ça va, mon ami?
Hey, c'est un plaisir, moi aussi. Ça va très bien, toi. J'imagine que tu es pleinement reposé maintenant, là.
Pleinement reposé. Je peux te dire que, tu sais, j'adore ma job. Je la ferais à tous les jours, 52 semaines par année. Mais à un moment donné, tu sais, les batteries, on doit les recharger. Je ne l'avais pas fait depuis un an. Je peux te dire que première journée de vacances, quand je tombais endormi partout, ma blonde n'était pas super contente.
Mais l'important, c'est de ne pas tomber endormi quand on est en train de plonger là, avec une bonbonne.
Non, en plongée sous-marine, ça allait bien. Je m'endormais c'est pas, ça. Mais je peux te dire qu'entre les plongées, je faisais quelques petites siestes. Et à la fin de la journée, écoute, ma blonde, elle se promenait, elle prenait des photos, puis moi, je dormais. Elle dit, là, c'est beau, là, les batteries, il faut qu'ils rechargent. C'est correct. Mais le Canadien qui a rechargé ses batteries aussi pendant mon absence. Là, on n'a pas manqué d'action avec le tournoi des Quatre Nations. Toi, tu étais là, tu as suivi ça, la coupe qui a été hautement divertissante pour toutes sortes de raisons. Mais le Canadien qui a la même image, eux autres, ont rechargé pas mal, on dirait.
Ben vraiment, parce que quand on regarde comment les choses s'étaient terminées avant la pause pour le Canadien, on était dans une mauvaise séquence, 8 défaites en 9 matchs. On se disait, bon, là, finalement, le Canadien se sort du portrait des séries. On va vendre tout le monde, puis on va essayer de rebâtir tout ça pour l'an prochain. Mais finalement, on est revenu avec en étant reposé, autant pour Juraj Slafkovský, autant pour Nick Suzuki, dont on parle en bien, évidemment. Mais puis ces gars-là ont comme une motivation particulière de dire « OK, on attaque ça comme un nouveau défi. » Puis avec la date limite des transactions qui arrive vendredi, on a l'impression que tout le monde est le gaz au fond, vraiment. C'est le cas de Josh Anderson, évidemment, dont on parle, puis qui se présente à tous les soirs pour essayer de garder son équipe la tête hors de l'eau. C'est beau à voir de la part du Canadien l'énergie qu'on déploie pour aller chercher des résultats.
Oui, effectivement. Puis tu sais, c'est pas parfait, là. Ça n'a pas été parfait contre les Sharks. C'était pas parfait hier non plus. Mais le résultat reste le même. On a de la résilience. On réussit à être opportuniste. Les gardiens peuvent faire les bons arrêts au bon moment. Puis on va chercher 2 points. On a 4 victoires de suite.
Ben moi, c'est ce que j'ai préféré, je pense, dans le match d'hier. C'est qu'on n'a pas eu besoin tant que ça de nos gros canons. Parce que Suzuki, Caulfield ont contribué au pointage, mais c'est pas nécessairement ça, c'est que ça a été distribué sur la formation au complet. Puis qu'est-ce que le Canadien faisait dans cette séquence-là où tout allait bien? Bien, tout le monde contribuait. Donc là, on se retrouve avec une équipe hier où des gars comme Newhook, des gars comme Dvorak se sont mêlés du pointage. Même chose pour Jake Evans qui a marqué le but d'assurance. Il y a eu des erreurs dans ce match-là, tu sais. Puis encore là, le Canadien n'est pas une équipe qui a été capable de montrer de façon constante sur une fenêtre de 3, 4, 5, 6 matchs qui est capable de vraiment être constant match après match. On l'a fait plus tôt, mais là, dernièrement, on a eu 2 très bons matchs contre les Sénateurs, contre les Hurricanes de la Caroline. Par la suite, contre les Sharks, ça a été plus ardu. Il n'y avait pas grand monde qui était satisfait de la façon dont ce match-là s'était déroulé, même si on avait la victoire. Là, on se retrouve contre les Sabres de Buffalo. C'est une équipe qui a quand même de l'énergie, puis j'entendais un peu la même chose de la part de David Savard après la première période que ce qu'il nous avait dit après le match contre les Sharks. Après le match contre les Sharks, il disait « c'est une équipe jeune qui met de la pression ». Mais c'était exactement la même chose qu'on a eu contre les Sabres. Après ça, bien, c'est comment on gère cette pression-là. Puis si on n'arrive pas à bien la gérer, bien, est-ce que notre exécution est assez bonne pour sortir du territoire, éviter de commettre des revirements, puis que la rondelle reste dans notre territoire? Donc, un peu tout ça mis ensemble, et le fait que le Canadien doit être capable de s'établir profondément chez l'adversaire avec son échec avant. C'est la clé. Le fait d'être capable de bien passer la rondelle de la zone défensive à la zone offensive, ça, c'est des choses que le Canadien cochait toutes les cases quand on réussit à avoir des bons matchs et qu'on arrive à se distancer de notre adversaire. Quand c'est un match plus ardu, où là, c'est plus serré, c'est un petit peu moins structuré, où l'exécution est moins au rendez-vous, bien là, on voit des matchs comme on a vu hier, comme on a vu contre les Sharks, mais malgré tout, bien, on garde la tête hors de l'eau parce que on a été capable d'avoir de la production d'un peu tout le monde. Puis Dobesch a quand même fait les arrêts nécessaires quand on a eu besoin de lui.
Là, on est rendu à 11 joueurs qui ont 10 buts minimum cette saison. Ça, c'est un sommet dans la Ligue nationale. Tu fais bien de l'amener, Pat, en disant ça vient des 4 trios, la contribution. C'était une inquiétude qu'on avait au début de la saison. T'sais, on se disait à certains moments, hey, écoute, quand le premier trio n'est pas là, aïe aïe, c'est difficile. Mais là, avec le retour de Patrick Laine, L'émergence d'Emil Heinemann, la saison que Jake Evans connaît, Josh Anderson aussi. Écoute, on est satisfait de ce qu'on voit présentement.
Oui, puis c'est intéressant parce que tu viens de nommer plusieurs joueurs. On parle souvent de la contribution des troisième, quatrième trios. On parle de Evans, on parle d'Armia, on parle d'Heinemann, on parle de Gallagher, de Anderson. Moi, je trouve qu'on oublie souvent Christian Dvorak. Puis honnêtement, il y a toujours une partie où on aime moins Christian Dvorak pour plein de raisons, parce que, évidemment, le départ de Philippe Dano, l'arrivée de Christian Dvorak, on nous l'avait vendu comme le remplaçant de Philippe Dano. On a toujours eu des attentes un petit peu trop élevées envers ce joueur-là qui était quand même arrivé avec des... On avait payé cher pour aller le chercher. Puis finalement, ben non, c'est vrai que c'est pas un gars qui va marquer 20-30 buts. C'est pas un gars qui va faire 50-60 points tout le temps. Il a été blessé souvent. Mais cette année, il a démontré une bonne constance dans sa façon de jouer. Puis si Josh Anderson, Brendan Gallagher réussissent à avoir du succès, bien c'est aussi parce que le joueur de centre, Dvorak, fait du bon travail. Puis je le sais que c'est pas le joueur le plus sexy, c'est pas le joueur dont on aime vanter les mérites nécessairement, mais moi je trouve qu'il joue vraiment du bon hockey, Christian Dvorak, dans ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe-là. Puis ça, c'est une des belles choses, je trouve, que Martin Saint-Louis a réussi à faire cette année. Rappelez-vous l'an dernier à quel point c'était frustrant pour Josh Anderson de ne pas avoir de production. Toutes les occasions de marquer qu'il avait, il a été capable de s'asseoir avec lui puis de définir un peu plus qu'est-ce qu'on attendait de lui cette année. Il l'a fait jouer en désavantage numérique, justement avec Christian Dvorak. Puis, je trouve que c'est une belle façon de dire, Martin Saint-Louis a pris les joueurs puis a dit, voici ce que je veux de ta part. Si j'ai plus que ça, ben tant mieux, c'est du bonus. Dans le cas de Dvorak, c'est un peu la même chose. Hier, il obtient deux mentions d'aide, finit avec deux points. On se dit, bon, ben crime, deux points de la part de Dvorak, il y a eu un bon match. Mais outre les points, c'est la façon dont on joue. Puis je pense que Dvorak est quand même très constant dans sa façon de faire. Il est capable de créer des jeux. Il y a eu des occasions de marquer contre les Sharks qui ont été provoquées par Dvorak aussi. Donc, je trouve que c'est important de le mentionner dans les joueurs qui obtiennent du succès. Puis des joueurs sur qui on peut compter. Là, par la suite, ben, s'il fallait qu'on perde Dvorak, ben, qui va être capable de prendre cette place-là? Un joueur qui est plus effacé, mais qui va nous amener une certaine constance dans ce qu'on demande de lui.
Ouais, et là, tu sais, présentement, t'as un gars qui s'appelle Owen Beck, qui a une grosse carrière de 10 matchs dans la Ligue nationale, qui pilote le deuxième trio aussi, tu sais. Ce qui amène, il y a beaucoup, puis ça va être notre question au retour de la pause, Pat, mais je te la pose, tu sais, parce que on a besoin d'un deuxième centre. Je pense que là, c'est assez clair. Là. Kirby Dach, non seulement, n'est pas là d'ici la fin de la saison, mais je pense que même en vue d'un moyen-long terme, en tout cas, à mon avis, ce ne sera pas le poste de Kirby Dach. C'est pour moi, c'est clair. On va aller chercher qui? Est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un avant la date limite des transactions? Là, les joueurs font leur plaidoyer. Là. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça de mémoire récente, là. J'ai le Canadien de Montréal à dire « Non, non, je veux pas qu'on échange personne. On a ce groupe-là, puis on veut rester ensemble. » Et ça, ça inclut tout le monde. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça. Est-ce que, selon toi, Kent Hughes pourrait aller contre la volonté de son vestiaire?
Ben, ça aurait l'air fou, là, avec 5 victoires de suite, de dire « Ben là, je tire la plug, puis on échange tout le monde alors qu'on est à 3 ou 2 ou 1 point des séries. » Je pense qu'il y a une certaine volonté de prouver des choses dans l'organisation, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le deuxième trio, parce que moi, je vois ça davantage comme présentement, avec ce qu'on voit du Canadien, puis là, je dis pas que c'est ça le plan à long terme. Non. Je parle de présentement dans les matchs qu'on vit présentement, dans les semaines à venir. Je pense qu'on a un premier trio. Ça, c'est clair. On a Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Les choses vont bien. Ils nous l'ont montré depuis le retour de la pause. Je pense qu'on a 3 autres trios avec 9 joueurs qui sont capables de contribuer à un moment donné. C'est ce qu'on a vu dans le match d'hier, puis c'est ce qu'on a vu dans la séquence de 13 matchs sur 17 où on a gagné. Le Canadien profitait à un moment donné de la contribution de son troisième, entre guillemets, trio de Dvorak, Gallagher, Anderson. Une autre fois, c'était Evans, Armia. Une autre fois, c'était des buts de Lainé en avantage numérique. Parfois, c'est Newhook qui va marquer des buts. Donc, je pense que l'attaque, mis à part le premier trio, est réparti sur les 3 autres trios. Donc, est-ce que vraiment Owen Beck est le centre du deuxième trio présentement? Quand on regarde le temps de jeu, c'est pas tout à fait ça. C'est plus distribué de façon globale sur les autres joueurs. Ça va influer. Il va y avoir des changements par rapport aux unités spéciales, avantages, désavantages numériques qui vont jouer là-dessus. Mais à 5 contre 5, je pense qu'on a surtout un premier trio, puis on a 3 autres trios qui, selon les duels qu'on a de l'adversaire, on va équilibrer les choses. C'est une belle opportunité, cela dit, pour Owen Beck de montrer qu'il est capable d'avoir un rôle offensif. Mais parce oui. qu'on a beaucoup parlé du fait « Ah, faut échanger Jake Evans parce que Owen Beck s'en vient. » Mais je te l'ai déjà dit, Owen Beck, dans sa tête, là, en ce moment, comme joueur de 20-21 ans, il est capable, dans sa tête, de dire « Moi, je peux jouer offensivement dans cette ligue-là. » À partir du moment où ça va prendre combien de temps pour que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, il accepte de dire « Ouais, peut-être que je ne serai pas capable d'être sur un top 6 dans la vie. Faut que je me trouve une autre façon de contribuer à cette équipe-là. » Peut-être que ça n'arrivera jamais, puis peut-être que Owen Beck va nous montrer qu'il est capable d'avoir des chiffres offensivement. Tant mieux. Mais présentement, lui, dans sa tête, il a des aspirations de jouer un rôle offensif. Donc, est-ce que ça serait vraiment la bonne solution de tasser Jake Evans parce que Owen Beck est là? Moi, j'ai encore des questionnements à ce niveau-là. Moi, je pense que présentement, là, on a une opportunité de distribuer du temps de jeu, de voir comment tout le monde fonctionne. Owen Beck, comme tu l'as dit, n'a pas beaucoup d'expérience encore. Autant Owen Beck, on voudrait qu'il ait du succès tout de suite, autant quand Jakob Dobesch est rentré, on voulait seulement que Jakob Dobesch soit dans les buts. Puis là, hier, il y avait des questionnements. Mais là, pourquoi on met Jakob Dobesch? Montembeau va bien, on gagne des matchs. Fait que, tu sais, c'est à un moment donné, il y a de la distribution de dire on va voir ce que les joueurs nous donnent comme réponse dans certaines situations. Puis par la suite, on prendra les décisions.
Pat, merci encore une fois de ta collaboration à chaque semaine. J'ai déjà hâte de te retrouver samedi prochain, mon ami. On te retrouve les samedis, les dimanches, même heure, dans le Tailgate Weekend, c'est sûr. Puis nous, ben, j'imagine qu'on se voit demain.
Mais on va se voir demain, mon cher.
J'ai bien hâte.
Un grand plaisir.
Salut, mon chum.
Le vacancier de retour dans l'action.
Oui, effectivement. Et pour un bout. Salut, mon ami.
Salut. Bye. Bye.